Bonjour. Très content d'être avec vous. Donc, je m'appelle Jeannot Gogel, ma meilleure moitié qui est ici s'appelle Marianne. Et nous venons de la région de Strasbourg. D'ailleurs, vous le remarquerez à mon accent, il est un peu différent de l'accent belge, mais il est bien prononcé. En tout cas, c'est une joie d'être avec vous parce que franchement, il y a beaucoup de rossignols ici qui chantent très bien. Et puis, vous avez des musiciens talentueux qui aident à l'adoration. Merci pour tout cela. Je suis très content aussi parce que nous, on vient d'une église à peu près de 140 membres qui est assez rurale et tout le monde a à peu près le même faciès, alsacien. Et là, il y a plein de couleurs, moi je trouve que c'est magnifique, ça nous rappelle que le Seigneur se constitue un peuple avec des personnes originaires de toutes les nations. Et notre mission est aussi d'atteindre toutes les nations. Donc merci pour votre présence et pour votre manière d'aimer le Seigneur ici à Bruxelles. Merci aussi à Patrick pour le bon rappel. Parfois, nous sommes découragés et on vit pauvrement parce qu'on ignore tout ce qu'on a sur notre compte. Et tu nous as rappelé ce matin tout ce qu'on a en Jésus-Christ. Et plus on en est conscient, plus on est hardi dans la vie et on va de l'avant parce qu'on ne peut pas avoir plus que tout ce qu'on a en Jésus-Christ. Petite histoire et je vous laisserai faire le lien avec mon message après vous-même. Il y a 3 semaines, je reçois un SMS le lundi matin assez tôt d'Astrid, une sœur de l'église. Elle me dit, écoute Jeannot, enfin elle écrit, des jeunes que je connais, sans contact avec aucune religion, cherchent quelqu'un pour dire des paroles spirituelles à l'incinération de leur maman, qui vient de mourir. Alors, cette sœur, Astrid, avait rencontré cette dame qui venait de mourir lors d'un recensement qu'elle avait fait dans le village, elle s'était fait employer pour ça, et elle avait noué contact avec cette Francine qui avait une vie vraiment chaotique, faite de séparation, enfin, d'addiction à l'alcool. Mais durant des années, à peu près 15 ans, cette Astrid a été le prochain de cette dame. Il a toujours à nouveau visité, aussi à la fin dans l'EHPAD avant sa mort. Et finalement, les enfants ne savaient pas du tout comment faire pour l'incinération de leur maman. Alors ils ont téléphoné à cette Astrid, mais comment on peut faire? Alors il m'appelle, il dit, écoute Jeannot, tu peux organiser quelque chose? Donc on crée un groupe WhatsApp avec ces 2 enfants et on organise une cérémonie au crématorium de Strasbourg. Finalement, à cette rencontre, à cet enterrement, de la famille, il y avait juste les 2 enfants. Tous les autres sont en désaccord, enfin, une vie chaotique terrible. Et mes 25 personnes viennent, la plupart sans aucun contact avec l'Évangile. Et j'ai pu leur annoncer l'Évangile, chanter avec eux. Et après, ils nous ont tous emmenés dans un bar, parce que c'est le milieu où ils vivent toute l'année, pour prendre un pot. Et puis, les discussions se sont poursuivies durant des heures. 7 semaines écoulées, j'ai marché durant 2 heures avec la fille de cette maman qui est décédée, addicte au cannabis et à la cocaïne, un poste de responsabilité, mais ne tient qu'à cause de ses drogues. Et on a pu parler de l'Évangile. Et maintenant, elle veut qu'on se voit régulièrement. Tout a commencé parce qu'Astrid est restée fidèle à cette dame qu'elle a rencontrée et durant 15 ans. Je vous laisse réfléchir. L'Église existe pour Dieu, l'Église existe pour l'édification de ses membres, mais elle existe aussi pour le monde perdu, la société dans laquelle nous sommes placés. Et nous tous, nous avons vocation de l'inviter à se réconcilier avec Dieu. Comment pouvons-nous faire au quotidien, rejoindre les personnes qui nous entourent et les aider à placer leur confiance en Jésus? Alors je vous propose d'examiner une réponse que Jésus a donnée par sa vie et que les auteurs des Épîtres ont enseignée avec leurs implications sociétales. Dans son invitation à ceux qui sont fatigués et chargés pour trouver du repos, Jésus nous demande aussi d'apprendre de lui, de recevoir ses instructions. Il nous instruit par son enseignement, mais aussi par son exemple. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Ceci est d'ailleurs un indice important pour notre vision de la formation, dans l'éducation de nos enfants, dans la formation disciple. On enseigne par l'exemple qu'on donne. Et nous sommes tous marqués par l'exemple que nous avons eu par nos parents, parfois un prof qui nous marque à vie. Et Paul enseignera plus tard à vivre en suivant l'exemple de Christ. Vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous, Éphésiens 5. Pierre, lui, va être amené par une vision à raconter la vie de Jésus à un officier qui porte le nom d'un corvidé qui fait les ravages dans nos champs. Il s'appelait comment cet officier ? Corneille, très bonne réponse. En le faisant, il utilise une expression qui caractérise l'action itinérante de Jésus. Je rappelle ce texte, Actes 10, verset 38. « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant du bien, car Dieu était avec lui, en faisant du bien partout où il allait. » Rappelez-vous Astrid, durant 15 ans, elle a fait du bien. Trois exemples de cette action itinérante de Jésus. D'abord au nord de la Galilée, à Bethsaïda, dans sa patrie où il pensait se retirer un peu avec ses disciples revenus de mission. Et qu'est-ce qu'il voit ? Une grande foule, et il fut rempli de quoi ? De compassion pour elle. Il va guérir les infirmes et nourrir une foule de plus de 5000 hommes. Imaginez-vous dans le quartier si vous aimiez nourrir 5000 hommes. Ensuite, dans le sud d'Israël, à Jérusalem, Jésus voit un aveugle de naissance. Il va lui appliquer de la boue sur les yeux, lui ordonner de se laver au réservoir de Siloé pour qu'il soit guéri. Et ce mendiant aveugle va retrouver la vue et être un outil d'évangélisation et de correction des pharisiens. Et il sera bien plus hardi que ses parents qui craignaient les autorités religieuses. Et durant son action, Jésus va en profiter pour corriger la fausse conception qui voulait que la maladie soit forcément la conséquence d'un péché personnel ou parental. En fait, Jésus dit, il s'agissait en réalité de permettre qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Et il va permettre à ce méprisé de devenir quelqu'un qui manifeste la puissance de Dieu et d'entrer dans l'histoire de l'Église. On en parle encore aujourd'hui, notamment ici à Bruxelles. En remontant vers la Galilée, il ne va pas contourner la Samarie comme ses compatriotes juifs en passant à l'est du Jourdain. Il va faire fi des préjugés locaux et va provoquer un entretien à un puits qui depuis a inspiré beaucoup de prédications. Il engage la discussion avec un habitant de Samarie qui en plus s'avère être une femme. Alors cela étonnait les disciples. On les comprend, car les rabbins juifs jugeaient la femme indigne de toute instruction. Ça existe encore aujourd'hui. Il n'était donc pas bien séant à un homme d'avoir de longs entretiens, même avec sa propre épouse, et combien plus avec une étrangère. Dans la suite, Jésus va souligner la dignité féminine en acceptant parmi ses disciples les femmes comme assistantes. Il va apparaître en premier à l'une d'entre elles, comme le récit cité. Ici au puits, qu'est-ce qu'il fait ? Il donne de l'attention, accepte de l'aide d'une femme avec un comportement répréhensible, argumente avec elle. Elle devient quelqu'un qui avoue que Jésus a dévoilé la vérité sur son comportement et qui invite les autres villageois à reconnaître en lui le Messie. Et cette démarche bienfaitrice de Jésus va susciter une multiplication de disciples dans la région. Alors, quelques caractéristiques de cette manière d'être de Jésus, de son action bienfaitrice. Son action bienfaitrice est transnationale. Il va en priorité vers son peuple, mais aussi vers les païens. Lorsqu'une femme descendante des Cananéens lui demande de secourir sa fille tourmentée par les démons, il va d'abord répondre que les Juifs ont priorité. Mais comme elle insiste pour demander quelques miettes du repas qui leur est servi, Jésus intervient. Et à la fin de sa mission terrestre, il enverra ses disciples où ? Et toute l'Église, vers toutes les nations. Transnational. Ensuite, il accorde beaucoup d'attention aux peu considérés. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Donc, comme le bon samaritain, il voit et se préoccupe de ceux qui sont sur le bord du chemin et que les religieux de l'époque dépassaient sans s'arrêter. Paul va dire « Dieu a choisi ce qui est folie aux yeux du monde pour couvrir de honte les sages. Il a choisi ce qui est faiblesse aux yeux du monde pour couvrir de honte les forts. Il a choisi ce qui est bas, méprisable ou ne vaut rien aux yeux du monde pour détruire ce que celui-ci estime important. » Patrice, qui habite dans notre village, a dirigé une importante entreprise. Il vient juste d'aller à la retraite. C'est un monsieur qui aime piloter les choses et qui n'est pas peu fier de sa réussite matérielle. Alors son fils, dans la quarantaine, a jadis, dans sa jeunesse, fait un centre de vacances avec nous. Et là, il vient de s'effondrer psychologiquement, il est papa, suite à des émissions religieuses regardées à la télé, un rêve qui ne le quitte pas et une discussion avec un prêtre sans connaissance biblique. Il est convaincu qu'il va aller en enfer et qu'il est damné pour toujours. Alors ce jeune homme, enfin ce monsieur, reprend contact avec moi, puisqu'on se connaissait au travers d'une connaissance commune, et depuis me téléphone tous les jours, presque tous les deux jours, afin que je lui répète la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors son père, athée, qu'on a rencontré, me pose deux questions. Pourquoi te pose-t-il des questions à toi et non pas à moi? Moi qui ai géré tant de situations difficiles, je me retrouve dépassé devant l'effondrement de mon fils. Ça m'énerve. Et toi, pourquoi tu accordes tellement de temps à mon fils? Je dis, écoute, simplement par compassion, parce qu'il a fait appel. Jésus priorise aussi ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'aide. Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ils savaient quitter les autres qui étaient suffisants. La religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter qui ? Les veuves, les orphelins, les gens dans la détresse. Et franchement, ils sont nombreux autour de nous. Il suffit de sortir les antennes, d'ouvrir les yeux, et on en rencontre beaucoup. Ensuite, on voit qu'il reconnaît l'enfant comme une personnalité entière. Laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi. Les disciples pensaient que le Messie avait des personnes plus importantes à accueillir que les enfants. À l'époque, on les considérait juste comme des adultes incomplets. L'enfant n'avait aucune importance dans la société juive. Il fallait juste s'occuper de lui, mais on n'attendait rien de lui. Jésus, lui, en parle souvent, non pas en rapport avec leur caractère, mais avec leur statut. Dans la réflexion que Jésus fait sur la grandeur, sur le rang dans la société, il dit qu'il faut opérer un demi-tour et devenir comme un petit enfant. Se rendre humble comme un petit enfant n'indique pas un trait de caractère, en tout cas mes enfants n'étaient pas naturellement, moi non plus, mais l'acceptation d'une position inférieure. Paul utilise le même terme pour parler de l'abaissement de Jésus. Il faut passer de la course au succès à la reconnaissance qu'on est bien insignifiant face à tout le plan de Dieu. Ensuite, on voit qu'il considère la personne dans sa globalité. Faire du bien à l'autre consiste à faire du bien à son corps et à son âme, à tenir compte de ses besoins terrestres et éternels. Donc Jésus est bien ce bon samaritain qui porte un autre regard que les religieux de l'époque sur ceux qu'il croise. Si vous lisez les évangiles, vous verrez souvent « Jésus vit la foule comme une brebis sans berger ». Jésus vit Matthieu au péage. Jésus voit l'aveugle naissance. Le regard que nous portons sur l'autre va déterminer nos actes ou notre ignorance à son égard. Cette vision de l'autre va déterminer la qualité de l'aide médicale, matérielle, relationnelle et le contenu du message adressé. Il nous faut comprendre que faire du bien ne démarre pas avec des actions, mais avec une attitude de cœur. Marianne et moi, on a commencé, quand on avait 25 et 22 ans, l'implantation d'église en Moselle, dans une ville où il n'y avait pas d'église évangélique. Et on a fait beaucoup de colportages, on allait de maison en maison pour proposer l'évangile. Et après quelques semaines, je me suis rendu compte, mais mince, on n'arrive pas à accrocher avec les gens. J'avais l'impression d'être une guitare avec des cordes, mais sans coffre. Il n'y avait pas de résonance. Je savais que les gens étaient perdus s'ils ne croyaient pas en Jésus. Mais je n'étais pas vraiment conscient. Mon cœur restait froid et je n'arrivais pas à rejoindre les gens. Et Dieu m'a montré, Jeannot, il faut que tu changes. Ce n'est pas la compassion qui te pousse. Ce n'est pas le désir de les voir sauvés. Tu aimes argumenter avec eux, essayer d'avoir raison dans la discussion. Le regard que nous portons sur l'autre change notre attitude. Si je considère chaque personne, peu importe la couleur de sa peau, de sa religion, comme une créature de Dieu, aimée par lui au point d'avoir donné pour elle son fils, ben je vais la respecter, même si elle souffre de démence, une personne âgée, et ne se souvient plus que du lointain passé. Il nous a aimés au point de donner son fils, et j'ai bien aimé la manière dont tu as rappelé tout ce que c'est par le sang de Christ que nous sommes justes. C'est pour ça, chaque fois que j'achète une nouvelle chemise, Marianne me met ici un bouton rouge. Parce que chaque fois que l'accusateur me dit « Ah, Jeannot, toi, tu veux prêcher, regarde, tu es encore bien imparfait », ça me rappelle, si je suis justifié, c'est à cause du sang de Christ. Et puis, quand je suis avec des incroyants, à un moment donné, ils regardent, ils disent « Mais c'est quoi ce bouton rouge? Tu n'en avais plus de foncé, là, maître, ou quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Alors, je leur dis « Mais qu'est-ce qui est rouge chez tous les hommes ?»« Ah, ben, le sang !» Je dis « Ben, tu vois, ça me rappelle... » que le Christ a donné sa vie, il a versé son sang pour que toi et moi, on puisse être pardonnés. Alors, j'ai déjà dit l'essentiel et on est dans le sujet. On met un bouton rouge. Si je suis conscient qu'une existence éternelle, sans la présence de Dieu, attend chaque personne qui ne se repent pas, je suis rempli de compassion pour elle. Il y a une colline près du village où nous habitons et je vais souvent là-bas pour prier parce que ça me permet de voir les villages autour. Et quand je commence à prier, pour Mimfassheim, pour Wittersheim, pour tatatata, je passe en revue tous ces villages et je prie. Je passe en revue dans ma tête les gens qui habitent la rue où on est. Et quand tu commences à intercéder pour eux, ben ton cœur commence à saigner et tu dis « Seigneur, souviens-toi et pitié ». Comment puis-je faire du bien à celui-là, à celle-ci? Comment? Et le Seigneur nous donne des idées pour rejoindre les personnes en faisant du bien. Quelques applications encore sur la bienfaisance. On voit donc d'une part que Dieu le Père se manifeste en nous faisant du bien. Simple rappel de l'apôtre Paul dans Actes 14. Dans les siècles passés, ce Dieu a laissé tous les peuples agir comme bon leur semblait. Et pourtant, Il n'a cessé de leur donner des preuves de son existence et des témoignages de ce qu'il est. En effet, il vous a manifesté sa bonté par d'innombrables bienfaits. C'est lui qui vous envoie du haut du ciel les pluies qui fécondent la terre, lui qui régit les saisons et vous accorde des fruits abondants. Oui, c'est lui qui pourvoit votre subsistance et remplit vos cœurs de joie. Les nappes phréatiques étaient presque toutes très basses il y a 2 ans en France. Cette année, elles sont remplies, hein. Mais merci, on avait besoin de pluie. Dieu le Père nous témoigne de sa bonté en pourvoyant aux besoins. Chaque fois que je sème dans le jardin et qu'il y a quelque chose qui vient, quelques semaines après, il dit, ben, formidable, Dieu fait croître. Ensuite, Dieu le Fils a démontré qui il était en faisant du bien, on vient de le dire. Et il pourra dire à son peuple, « Mon Père m'a rendu capable d'accomplir sous vos yeux beaucoup de bonnes actions. Pour laquelle voulez-vous me tuer à coups de pierre ?» Il a pu faire tout ce bien, car il était loin du Saint-Esprit et de force. Et nous aussi, nous avons l'onction qui demeure en nous suite à sa montée au ciel. Donc Dieu, le Saint-Esprit, veut exprimer l'amour de Dieu au travers de nous maintenant. C'est pour cela qu'il verse dans nos cœurs l'amour de Dieu. Les paroles sans œuvre manquent de crédibilité. Et les œuvres sans parole manquent de clarté et ne permettent pas à ce que la gloire revienne à Dieu. Je répète cette phrase. Les paroles sans œuvre manquent de crédibilité. Je disais hier à Eric, beaucoup de Français disent « Arrêtez, je ne fais pas confiance ni aux politiques, ni aux religieux. Regardez ce que l'Église catholique a fait, tous les problèmes de pédophilie, comment voulez-vous qu'on vous croit ?» Et ils nous observent. Comment tu vis au quotidien ? Ils veulent voir l'authenticité de notre foi et de notre vie transformée dans le couple, dans la vie de famille, dans le monde du travail. Mais les œuvres sans parole manquent de clarté et ne permettent pas à ce que la gloire revienne à Dieu. Les gens s'interrogent parfois pourquoi on est différent. Ben vient le moment où il faut dire, si je réagis comme ça, c'est parce que j'aime le Seigneur et parce que Dieu me donne la force. Seigneur est allé partout, il faisait du bien. Dieu le Père nous fait du bien, maintenant le Saint-Esprit veut nous utiliser, nous, pour faire du bien. Envers qui ? À qui devons-nous faire du bien ? Aidez-moi à réfléchir. À notre prochain ? D'autres idées ? À nos ennemis, ouais. Vraiment, à nos ennemis, ouais. Très bien. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans espoir de retour. Alors votre récompense sera grande. Vous serez les fils du Très-Haut, parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Si ton ennemi a faim, prends-lui tout ce que tu peux. Non. Donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui. Par là, tu l'aideras à prendre conscience de sa manière d'agir envers toi et à trouver le moyen de changer. Ne laissez jamais les rênes de votre conduite entre les mains du mal. Au contraire, prenez l'offensive et triomphez de lui. Par quoi ? Par le bien. Bonne réponse. La bonté de Dieu pousse les hommes à la repentance et notre amour inconditionnel peut avoir le même effet. Richard et Bernadette vont à Strasbourg. Ils font une sortie en couple. Il emmène sa femme dans une bonne pâtisserie. Il s'installe. À droite, il y a un monsieur qui est seul à table. Et il commence à fixer Bernadette. Sans cesse. Richard, ça commence à l'énerver. Qu'est-ce qu'il veut à ma femme ? Après un moment, il se lève, prend le petit bouquet qu'il y a sur chaque table et vient et l'offre à la femme de Richard. Il regarde Richard et dit « Avoue-le, ça t'énerve ! Dis la vérité !» Richard, inspiré, dit « Je vais te dire la vérité. c'est Jésus-Christ qui est la vérité. Et il t'aime, il est mort pour toi. Le gars s'attendait à tout sauf à cette réponse. Et il s'est assis et il a pu lui témoigner. Le Seigneur a bien inspiré Richard ce jour-là. Je ne sais pas si j'avais dit la même chose, mais franchement, les gens ne s'attendent pas à ce qu'on réponde avec de l'amour quand ils sont méchants. Ils veulent toujours qu'on joue au ping-pong. Ma voisine était quelqu'un comme ça. Je dis, écoute, tu peux arrêter. Je ne te renverrai pas la balle si tu fais tout le temps comme ça. On ne va pas jouer au ping-pong ensemble. Ça ne marche pas avec moi. Ensuite, on doit aussi, en priorité, aimer les frères et sœurs, faire du bien. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Galates 6, verset 9. À tour de rôle, nous pouvons avoir besoin de considération, d'écoute, d'aide manuelle ou financière. Seigneur, donne-moi ton regard sur mes frères et sœurs. Je me rappelle, il y a 30, 40 ans, je ne sais pas, quand les PC sont apparus dans notre milieu, dans l'église, moi, je ne savais pas comment faire. Et il y avait un monsieur informaticien dans notre église, et il a organisé finalement une formation pour tous ceux de l'église qui avaient envie d'être formés en informatique. Et puis, je suis bien reconnaissant. On a besoin, les compétences des uns peuvent servir à la formation de l'autre. Et si nous avons cet état d'esprit, franchement, c'est formidable. On fait partie d'un réseau, tant de gens autour de nous sont seuls. Et tu te retrouves à l'autre bout du monde avec des chrétiens, et tu sais, tu as cœur à cœur, et tu fais partie de la même famille. Ensuite, faire du bien aussi à quelqu'un qui était envoyé de l'Église dans une autre région, un missionnaire. On voit ça aussi dans la Bible. Prenez à cœur l'un d'entre eux. Parfois, on reçoit plein de lettres de prière, de plein de gens qui veulent qu'on prie et qui aimeraient aussi du soutien. On ne peut pas répondre à tous les besoins. Mais c'est bien de réfléchir dans le couple ou quand on est seul, de dire « Qui est-ce que je vais soutenir, moi ?» La plupart ont des besoins financiers. Et parfois, avec le peu que gagne le missionnaire, il retourne chaque euro. Alors pourquoi pas décider quelle somme tu verses par mois et mettre en place un virement automatique. Comme ça, ton don ne sera pas lié à ton humeur ou à tes dépenses, mais il sera régulier comme le coût du loyer du missionnaire. Alors c'est vrai, le missionnaire doit apprendre comme chacun d'entre nous le secret de Paul. C'est le secret que j'ai appris, dit Paul. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Mais il rajoute, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'Évangile, dit-il, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Vous seuls l'avez fait. Ils lui ont montré de l'intérêt. Il comptait pour eux. Il n'avait pas oublié celui qui était venu rencontrer les femmes en prière à la rivière Gangas et que Dieu avait utilisé pour la conversion de Lydie. Ils ont pris part à ses détresses. Ils étaient ses partenaires, ses associés. Franchement, moi je me rappelle bien quand tu commences comme implanteur d'église dans une ville où tu ne connais pas d'autres chrétiens, quelle joie quand tu sais que des frères et sœurs sont derrière toi dans la prière. Parfois, je me rappelle d'un faux prophète qui est venu dans le petit groupe qu'on venait de démarrer. Il voulait vraiment tout détruire, être au centre de tout. Enfin, c'était un mec qui était imbu de lui-même. Quelle joie de savoir que parfois quelqu'un a téléphoné dans l'église dont on était originaire et dit « Jeannot, ça va ?» et ainsi de suite, pour pouvoir partager. Prenons part aux besoins des autres. Ensuite, aux autorités politiques et aux patrons difficiles. Pour l'amour du Seigneur, soumettez-vous au roi qui détient le pouvoir suprême, comme à ses gouverneurs chargés de punir les malfaiteurs et d'approuver les gens honnêtes. Car voici ce que Dieu veut, c'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence toutes les calomnies portées contre vous. 1293 bourgmestres ont démissionné à mi-mandat en 2023 en France. Ils ne supportent plus les agressions verbales et physiques. Prions pour eux et sachons aussi relever ce qu'ils font du bien. Lorsqu'on est revenu habiter dans le village où on habite maintenant, j'avais entendu parler des difficultés aussi de notre bourgmestre. Alors je lui ai envoyé un petit mot, je lui ai dit « Écoute, franchement, le choix des lampadaires dans notre village, je trouve que c'est un bon choix. Il m'a répondu par un courrier de 7 pages pour lui dire « C'est la première fois que quelqu'un m'écrit pour relever quelque chose de bien. » Tout le monde m'écrit pour me harceler, pour me dire « ta-ta-ta, ça marche pas avec les voisins, enfin... » Puis il est venu avec son épouse prendre le café. Faire le bien, prier pour nos autorités. Vous leur avez déjà dit ce qu'ils font du bien. Exprimez-le aussi à vos patrons, ils ne sont pas tous, enfin bon, relevons aussi le bien. Ensuite, aux gens dans le besoin. Vous avez toujours les pauvres avec vous, vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Jacques, Pierre et Jean nous ont serré la main, à Barnabas et moi, en signe d'accord et de communion. Ils nous ont seulement demandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien pris soin de faire. La Bible relève une qualité de Tabitha ou de Dorcas qui habitait Jaffa. Il est dit, elle faisait beaucoup de bien autour d'elle et venait en aide aux pauvres. Nous faisons partie des riches et des très riches de la planète. La plupart d'entre nous mangent 3 fois par jour à leur faim. Certains meurent car ils ne mangent pas assez. Nous mourons souvent car nous mangeons de trop et mal. Et aux riches, la Bible commande la chose suivante. Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire du bien. Le riche doit aussi être riche en œuvres bonnes, d'être généreux, prêt à partager. Parfois, en tant que chrétiens, nous ne savons pas comment évangéliser, rejoindre les gens qui nous entourent. Une réponse simple de ce matin que nous pouvons retenir, c'est faire du bien à ceux qui croisent notre chemin au quotidien. Avec quelle motivation ? Termine bientôt. Eh bien, nous marcherons sur les traces de Jésus qui allait de lieu en lieu en faisant du bien. C'est lui que nous voulons suivre son exemple. Ensuite, nous prouverons que nous sommes fils de notre Père céleste qui fait lever le soleil sur les justes et les méchants. Voilà la preuve, ce n'est pas le blablabla. C'est qu'on fasse du bien, comme Dieu nous fait du bien. Et puis, nous accomplirons le projet de vie pensé par Dieu. Il nous a créés, comme tu l'as rappelé avant, dans notre union avec Christ Jésus, pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et puis, ceux qui ne connaissent pas Dieu verront nos bonnes actions, enseigne Jésus, et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Et puis, une promesse formidable, pour avoir des jours heureux. Que celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, fasse le bien. Qu'il recherche la paix avec ténacité, car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes. Il tend l'oreille à leurs prières. Franchement, on a plus de joie à donner qu'à recevoir. Quelle joie quand vous êtes une bénédiction dans l'entreprise, pour vos voisins, on est devenus les médiateurs quand ils se chipotent entre eux. Il y en a un qui m'écrit, « Jeannot, tu ne peux pas faire quelque chose là pour qu'on se comprenne de nouveau. » Enfin, lentement, et on a de la joie d'être utile, de servir les autres, ceux qui nous entourent. Alors, soyons le prochain pour ceux qui nous entourent, et soyons heureux. Bon courage pour la suite. Tu veux que je prie ? Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as donné un exemple à suivre et tu as fait ce que tu nous demandes de faire. Nous te remercions ensemble parce que c'est ton esprit qui habite en nous et qui nous rend capables de marcher dans tes traces. Alors je te prie pour chacun d'entre nous, là où tu nous as placés, montre-nous cette semaine à qui faire du bien pour qu'il s'interroge à ton sujet et qu'il puisse un jour te rencontrer. Amen.